Bonjour, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Nous allons parler aujourd'hui de la musique d'orgue, et nous avons un spécialiste avec nous dans le studio. Bonjour, Patrick Delabre, tout le monde à Chartres vous connaît. Vous êtes l'organiste titulaire de la cathédrale de Chartres, et en plus vous avez une classe d'orgue à Chartres, donc il y a des élèves qui, grâce à vous, avancent dans leur connaissance d'un instrument qu'on ne voit pas toujours dans la cathédrale.
Alors bonjour aux éditeurs, je fais un métier où je vis caché, mais je vis caché visuellement, mais pas de manière sonore, puisque généralement j'emplis l'espace, enfin, lorsque je suis à la tribune de la cathédrale, l'orgue jouant, cet instrument remplit remarquablement l'espace extraordinaire qu'est la cathédrale. Voilà, donc aujourd'hui le propos est de cerner un petit peu ce que pouvaient être les premières demandes de l'organiste au XVIIe siècle, ou dit autrement, ce qu'on pouvait entendre dans nos églises et cathédrales au tout début XVIIe siècle. J'ai sous les yeux un extrait de l'Harmonie universelle de Marin Mersenne, qui était un moine qui a publié une somme très importante en 1636. Et en ce qui concerne le chapitre de l'orgue, dans le livre 6e, page 392, à la fin, il définit ce qu'on attend d'un bon organiste. Et il dit donc « Quelques-uns font grand état de ceux qui peuvent faire trois ou quatre sans mesure de bons contrepoints figurés contre un point d'orgue. Les autres, de ceux qui ont une grande vitesse et légèreté de main, comme il arrive lorsqu'ils font 32 notes de mesure binaire, qui durent seulement une seconde minute, les autres enfin, de ceux qui font un très grand nombre de passages, de diminutions, de variétés contre tel sujet qu'on leur puisse donner. » À quoi l'on peut ajouter que ceux qui jouent d'un beau mouvement et d'une bonne grâce, qui sont justes à la mesure, sont les plus parfaits de tous, particulièrement s'ils ont été remarqués ci-dessus, s'ils savaient user des degrés chromatiques aussi parfaitement que les diatoniques. Alors, pour illustrer ce propos, j'ai choisi de vous faire entendre l'une des premières pièces d'orgue que l'on a décrites, pour le répertoire, il s'agit d'une fantaisie qui figure dans ce livre 6e de Marin Mersenne. Il s'agit donc d'une fantaisie de Charles Racquet, qui était organiste de Notre-Dame de Paris. On a un manuscrit qui est, mon Dieu, assez lisible, qui est écrit dans les clés anciennes et qui y est fondé sur le Regina Celli. Regina Celli, laetare, alléluia. Et en fait, l'auteur va proposer quatre parties à ce qu'on appellera ce point d'orgue. Il commencera par quelques valeurs longues. Regina. Voilà, on va avoir ainsi cet élément important musical. Il y aura un deuxième personnage musical qui reprendra la même chose, un troisième, un quatrième. On aura une polyphonie qui sera assez riche et qui va s'épeler sur ce que l'on appelle, nous organistes, les principaux 8 et 4. On aura l'occasion de l'entendre. Ensuite, dans une deuxième partie où la main droite va commencer les diminutions, donc à varier le thème, on aura l'ajout d'un jeu qui sonne à la 12e de ce qui est écrit. En fait, c'est ce qu'on appelle le jeu de Nazar, qui est caractéristique de l'orgue, une sonorité particulière à l'instrument qu'on ne trouve dans aucun autre. Enfin, une troisième partie où on aura l'ajout de ce qu'on appelle un plein jeu. Le plein jeu est un registre sur lequel parlent plusieurs tuyaux en même temps, fondés sur l'octave et la quinte. C'est généralement des jeux aigus, donc pour donner plus de lumière à la polyphonie. Et enfin, en dernière partie, on va avoir, comme le disait Marin Mersenne, ceux qui ont une grande vitesse de main, on entendra un contrepoint extrêmement rapide joué à la main gauche puis à la main droite qui viendra conclure cette pièce qui fait un peu moins de 6 minutes et qui est donc maintenant cette fantaisie de Charles Racquet sur le Regina Celli.
Thank you.
l'apport de la quinte, de cette sonorité particulière où la main gauche, la main droite va commencer à être beaucoup plus déserte et jouer toute une série de croches en continu. La musique va bientôt changer et on va avoir l'apport du plein jeu avec la mélodie principale que j'ai changée au début, qu'on va retrouver à la main droite et qui va être distribuée dans les trois autres parties. La musique là aussi va bientôt changer avec maintenant des vitesses qu'on entendra à la main gauche qui seront ensuite réparties dans les mains droites avec l'apport d'un jeu particulier qu'on appelle cymbale tierce qui est assez brillant et mordant. Il s'agit donc d'un enregistrement fait par Xavier Eustache, qui est organiste à l'église Saint-Martin des Tempes. Un orgue qui a été restauré par Bertrand Catiot il y a quelques années, par la facture d'orgue Boisseau-Catiot. Et c'est un orgue du courant XVIIe siècle qui a été relativement préservé et qui nous permet d'entendre des timbres qui sont maintenant relativement rares. Je vais continuer le sujet avec un autre compositeur qui, à cette époque, est lui aussi très important et finalement n'est pas éloigné non plus de Chartres. Il s'agit de Jean Titlouze, qui était organiste à Rouen. Jean Titlouze pouvait toucher un instrument que Crépin Carlier, grand facteur d'orgue, avait complètement refait. Et Crépin Carlier lui-même est venu travailler à Chartres tout début XVIIe siècle. Bon, nous n'avons plus aucune trace de son travail, hélas. Mais on peut s'imaginer dans la cathédrale ce que ça pouvait rendre comme résultat. Nous allons entendre donc dans un enregistrement d'un orgue également du XVIIe siècle à Bolbec, au nord de la Seine, c'est à quelques kilomètres de Rouen, deux extraits d'une hymne de Titlouze, le Candite Almae Siderum. Dans la première, premier verset, nous entendrons ce qu'on appelait le grand jeu, qui était constitué en fait des jeux sonores, le de l'orgue, la trompette, le clairon, qui imitait probablement les instruments qui pouvaient être des instruments d'orchestre, et puis l'ajout d'un jeu particulier qui n'appartient qu'à l'orgue, qu'on appelle le cornet, et qui est un jeu produit par 5 tuyaux en même temps, qui donne un son fondamental et ses premières harmoniques, une couleur très particulière. Je vais vous chanter l'hymne, tel que donc Titlouse le fait figurer, et vous entendrez dans l'enregistrement, d'ailleurs l'organiste qui joue, qui s'appelle Albert Rabert, sur cet orgue de Bolbec, joue le plein chant sur la montre du grand orgue, qui fait partie de la famille des principaux. Donc, je résume, un premier verset joué sur le grand jeu, puis ensuite une pause où l'hymne éplé sur la montre de 8, et puis ensuite un deuxième verset qui fait appel à 3 timbres différents, car la pédale jouera avec un jeu aigu qu'on appelle la flûte 4, il jouera la mélodie en valeur longue, la main gauche jouera la partie qui est confiée à la basse, et la main droite jouera le contrepoint troisième, en fait, la troisième partie, qui est jouée avec ce qu'on appelle un mélange creux, qui est un mélange qui fait appel à un jeu fondamental de 8 pieds, puis un jeu de 2 pieds qui sonne 2 octaves au-dessus. Vous allez voir, c'est une sonorité particulière. Donc d'abord, ce Condite Alme Siderum, dont je chante simplement la première partie de l'hymne.
Conditor alme siderum, eterna lux cretesium, Christe redemptor omnium, et oxi prece supplicum.
Thank you.
Donc, cher Patrick Delabre, nous venons d'entendre le Conditor Alme Siderum. C'est une pièce écrite à partir d'une hymne grégorienne très ancienne pour la période de l'Avent. Et nous avons entendu un morceau très calme par rapport au premier que vous nous avez fait écouter. Vous avez fait un vrai cours magistral sur la musique d'orgue, et il y avait plusieurs mots que vous pourriez peut-être expliquer à nos auditeurs, car vous êtes un spécialiste de l'orgue, de la musique d'orgue. Vous enseignez aussi l'orgue et vous êtes organiste titulaire de la cathédrale de Chartres. Le contrepoint, c'est un terme qu'on entend souvent, et je sais que vous êtes le maître dans les explications brèves, comme vous avez des élèves, qu'il faut souvent mettre très vite au fait des choses importantes.
Donc vous me contraignez à faire court, je vais tâcher effectivement de faire court. Un contrepoint, c'est quoi? Eh bien, je vais chanter, mettons, tout le début, simplement les 4 ou 5 syllabes. Conditor alme siderum. Imaginez, donc l'auditeur imagine que cette musique, ce sont des points sur une portée. Il suffit de mettre un autre point au-dessus de cette portée pour qu'on entende un contrepoint. Est-ce que vous pouvez chanter la même chose? Simplement le début. Conditor alme siderum. Allez-y.
Conditor alme siderum.
Alors, on va faire un contrepoint à deux, ou avec des intervalles divers, mais vous allez entendre donc deux voix différentes sur un même rythme, avec des intervalles différents, ça va donner une couleur. Allons-y.
Conditor alme siderum.
Voilà, c'est un exemple improvisé, sans préparation, donc de ce que peut être un contrepoint. On pourrait également faire la même chose en rajoutant des valeurs. Donc vous allez rechanter la même chose, et moi je vais inventer autre chose à mettre dessus.
Donc c'est une sorte de polyphonie.
C'est une sorte de polyphonie.
Mais qui suit un schéma.
Alors, le schéma est défini dans la mesure où on se sert de l'hymne, puisque c'est une hymne grégorienne. Alors, pendant que l'une des voix fait sonner ce qu'on va appeler le cantus firmus, le chant principal, une autre voix va dessiner d'autres mélismes. Elle va jouer plusieurs notes pendant que le contrepoint, enfin, donc, le cantus firmus ne fera qu'une seule note à la fois. C'est déjà diminuer les manières de faire. À partir du moment où on remplit les durées d'un certain nombre de notes, il y a accélération des durées, et c'est ce que l'on appelle les diminutions. Ça donne un chant, une présentation très variée de la musique, et c'était ce qui était caractéristique, justement, dans ce Charles Racquet, c'est qu'on sentait dans les 4 volets une écriture qui était réellement différente. Ici, dans le conditor qu'on a entendu de Titlouse, on était à 4 voix. La dernière partie qui rentrait était en fait la voix de basse, puisque c'était la plus grave dans la tessiture, qui faisait sonner l'hymne comme elle-même. Donc c'était sur les trompettes clairon et cornet, qui sont les jeux forts de l'orgue à cette époque-là. C'est un peu ce qu'on pouvait entendre dans la cathédrale, puisque je disais tout à l'heure que Titlouse a eu la chance de jouer un orgue qui était profondément refait par Crépin Carlier, qui avait travaillé dans les Flandres françaises et qui avait parcouru le royaume pour construire d'autres instruments, et Chartres a pu bénéficier de la grande qualité de son travail. Hélas, nous n'en avons plus aucune trace. Ensuite, dans l'enregistrement que vous avez entendu cette mélodie jouée seule, qui était jouée sur ce qu'on appelle la montre de 8, qui est le fondement en fait de l'orgue, puisqu'on va avoir des jeux qui portent un vocabulaire particulier, qui vont s'appeler montre, prestant, doublette. Ce sont les mêmes familles de jeux qui sonnent à l'octave. Après, il y a un certain nombre de jeux compliqués qui viennent colorer l'ensemble. Le jeu de Nazar, va-t-on dire, qui sonne à la 12e. Vous avez un Do 1, il va sonner le Sol 2. Pour ceux qui peuvent comprendre, tant mieux. Pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, voilà. Et mettons un son 1. Et le son 2. Voilà, c'est ce qu'on va entendre.
Alors, voilà, tous ces registres n'existaient pas au tout début de la création d'orgue. Les orgues autrefois avaient un clavier, donc on sait qu'à Chartres il y avait un orgue déjà au XIVe siècle. Il y avait un clavier, fallait faire résonner les tuyaux par des soufflets. Est-ce qu'on avait autant de registres à l'époque? Non.
Alors, les registres étaient ce qu'on appelait bloqués, à savoir qu'on avait un grand plein jeu. Les sons que j'ai émis dans le micro bien maladroitement, en fait, c'était donc ces sons étaient organisés pour que il y ait une grande tessiture du grave à l'aigu pour que ça sonne pleinement tout le temps. Ici, à Chartres, en 1475, il y avait un orgue dans lequel il y avait 50 tuyaux par marche. C'est-à-dire que quand on jouait une note, il y avait 50 tuyaux qui parlaient, donc c'était pour remplir effectivement la nef.
Ça devait évidemment faire résonner énormément toute l'enceinte.
Oui, et ce qui a évolué surtout dans la facture d'orgue, c'est que petit à petit, on a différencié les jeux pour pouvoir faire différemment. C'est ce qui s'est passé avec Robert Filleul, où déjà l'orgue était à registre séparé, et il y a eu un petit clavier installé dans le dos de l'organiste, qu'on appelait le positif de dos, dans lequel il y avait un jeu particulier qui pouvait servir de jeu de solo, et ainsi de suite, l'orgue a évolué pour trouver des espaces sonores extrêmement différents et des timbres différents suivant les pays dans lesquels c'était construit.
Donc la musique d'orgue, au début, elle va servir sans doute à soutenir la chorale ou les chantres ou accompagner le chant plutôt
que de... Alors, en général, l'orgue sert en alternative. Il joue seul. La scola chante de son côté, accompagnée ou non par un petit orgue de pupitre ou de lutrin, et le grand orgue, lui, est constamment en alternative. C'est ce qu'on a pu entendre dans le Titlouse. Mm-hmm. Voilà, le grand orgue joue, la mélodie grégorienne est donc le plein chant est chanté, puis ensuite deuxième verset, troisième verset, et ainsi de suite.
Et l'organiste va reprendre le thème, il va dans un interlude quand il y a une pause pendant la messe, il va donc remplir un peu le vide.
Alors,
par la musique qui reprend les thèmes.
Voilà, si on fait le lien direct avec ce 21e siècle, il n'est pas rare effectivement que, alors, où on joue de la musique écrite en rapport avec une hymne grégorienne ou autre chose. La musique a beaucoup évolué, c'est-à-dire l'ensemble a beaucoup évolué depuis effectivement 4 siècles, mais effectivement il rentre également dans la fonction, dans l'organisme, dans les usages de récupérer un incipit, c'est-à-dire un bout de mélodie ou le début ou une partie de la mélodie d'un chant que la foule a chanté pour le varier, lui donner une coloration et établir un contrepoint ou libre ou non libre, c'est selon le style du travail qui est fait. C'est encore quelque chose qui a cours maintenant.
Comme vous êtes secrétaire de l'association des grandes orgues de Chartres et en plus un titulaire d'un grand prix d'improvisation, vous êtes donc maître dans l'improvisation. Est-ce que l'improvisation a été admise très vite au cours des célébrations? Est-ce que c'est un genre que tout organiste devait de tout temps posséder?
Alors, une toute petite rectification, je ne suis pas Grand Prix de Chartres d'improvisation, je suis finaliste, je n'ai pas été élu par le jury, ça n'est pas grave, ça c'est un petit détail. En tout cas, en ce qui concerne l'improvisation, c'est d'abord par l'improvisation que les organismes fonctionnaient. Si on a des partitions, c'est parce que les uns et les autres ont voulu laisser une trace de leur travail et de leur savoir-faire, mais la plupart des choses étaient improvisées. On a ici, au tout début de l'émission, entendu une fantaisie de Charles Racquet. C'est la seule pièce écrite qu'on ait de cet organiste, qui a été organiste pendant, je crois, à peu près plus de 30 ans à Notre-Dame de Paris, et qui était un très grand artiste. C'est le seul témoin de son travail.
Et on mémorisait donc tout, au début?
Alors, je ne peux pas dire que l'on mémorisait tout. Il y a certains usages dans l'improvisation où on fait appel beaucoup à la mémoire, au réflexe, au conditionnement des mains, à l'établissement de la polyphonie. Et après, suivant le degré de savoir et le caprice du temps, parce que le hasard est là, et puis l'humeur aussi, on voit le contrepoint s'établit de telle ou de telle manière.
Très bien, donc nous avons vu que la musique d'orgue est très variée. Vous vous êtes concentré sur le XVIIe siècle, particulièrement riche. Et Titelouse est un grand maître des variations, du contrepoint. Je pense que nous pourrons, dans une deuxième émission, peut-être développer l'aspect instrumental. Nous avons très peu parlé de l'orgue, l'instrument en lui-même. Dans une deuxième émission à laquelle je convie dès maintenant les auditeurs de notre émission et qui ont pu apprécier le grand savoir de votre connaissance musicale. Donc, nous allons parler des trois orgues qui sont à Chartres, dans la cathédrale, l'église Saint-Pierre, Saint-Aignan. Alors, pour terminer, comme il reste très peu de temps. Est-ce que vous avez prévu une pièce que nous écouterons pour terminer cette émission?
Alors, juste pour résumer, en fait, j'ai souhaité que les auditeurs puissent prendre conscience des premières musiques écrites que les organistes ont eues à disposition, car avant, c'était essentiellement de la musique improvisée, parce que c'était le savoir-faire habituel. Pour terminer, nous allons entendre le dialogue qui clôt le Veni Creator de Nicolas de Grigny, hymne qui a été publié en 1699. Nicolas de Grigny est mort relativement tôt, puisqu'il avait 31 ans, et il était organiste de la cathédrale de Reims.